Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.
Le saviez-vous, un salarié sur deux en France ne connaît pas la grille salariale de son entreprise. 54% envisagent de démissionner s'ils apprennent qu'ils sont moins bien payés que leurs collègues à poste équivalent. Un chiffre qui grimpe à 59% chez les moins de 35 ans. Des chiffres publiés dans le cadre d'une étude OpinionWeb pour Indeed et Page Group. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi, saison 5. Aujourd'hui, on parle d'un sujet à discussion chez les ressources humaines, la transparence des salaires. Une transparence rendue obligatoire dès juin 2026 par la directive européenne. Quelles conséquences pour les recruteurs, pour les salariés? Peut-il s'agir d'un prélude à un big bang culturel au travail? Ces questions, eh bien, on se les pose en plateau avec Eric Gras, expert du marché de l'emploi chez Indeed. Salut Eric.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Bienvenue à toi. La première question Eric, pourquoi avoir choisi finalement de vous intéresser à ce sujet maintenant, à un peu plus d'un an de l'entrée en vigueur de cette fameuse directive?
Parce qu'il est presque déjà trop tard, donc il faut se dépêcher. Et donc on a souhaité nous pencher sur ce sujet dès maintenant afin d'anticiper au mieux les impacts de cette directive européenne qui date déjà du 10 mai 2023 et qui introduit des obligations fortes en matière de transparence salariale. Donc à un peu plus d'un an avant son entrée en vigueur au plus tard, puisque le gouvernement semble dire qu'il aimerait faire passer cette loi dès septembre, il nous semblait pertinent de mesurer à quel point cette future réglementation avait déjà commencé à faire évoluer les mentalités et les pratiques, aussi bien du côté des salariés que des recruteurs.
Alors, quels enseignements vous tirez chez Indeed de cette étude menée avec OpinionWeb et surtout, quelles sont les grandes tendances, j'ai envie de dire, côté salariés et recruteurs?
Alors, cette étude, elle révèle plusieurs grands enseignements, aussi bien côté salariés que côté recruteurs, tu l'as dit. Le salaire n'est plus vraiment un sujet tabou pour les salariés, qu'ils soient recruteurs ou candidats. Certes, plus à l'aise pour en parler dans la sphère privée, ils sont néanmoins également nombreux à l'évoquer sur leur lieu de travail. Plus décomplexés, les nouvelles générations de salariés se montrent plus ouvertes à la transparence salariale et constituent le fer de lance de cette libération de la parole. Reste que faire la démarche de divulguer soi-même son salaire au sein de son entreprise et par extension mettre en lumière des écarts salariaux peut s'avérer problématique entre collègues. Même si le changement d'entreprise offre des possibilités de bons salariaux, l'arrivée dans un nouveau cadre de travail ne permet pas nécessairement de fuir des situations d'inégalité salariale. Les mêmes situations délicates peuvent s'y répéter. Dès lors, la perspective d'une obligation de transparence salariale venant des organisations, prévenant ainsi des situations inconfortables entre collègues, est plutôt bien accueillie par les recruteurs comme par les candidats, même si une part d'entre eux reste inquiète. Aujourd'hui, au cœur du processus de recrutement, le salaire n'est pas l'unique atout des recruteurs. Les avantages salariaux et notamment le télétravail sont d'autant de points d'accroche que les entreprises sont prêtes à faire valoir auprès des candidats.
Et aujourd'hui encore, une offre d'emploi sur deux ne mentionne pas de salaire sur Indeed en France. Comment est-ce que toi t'expliques autant de réticence finalement de la part des entreprises?
Alors cette réticence, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, il existe une culture du secret autour de la rémunération historique, très ancrée dans de nombreuses entreprises françaises. Afficher les salaires dans les offres est souvent perçu comme un risque. Cela pourrait, comme vous le dites, générer des tensions en interne si les collaborateurs découvrent des écarts, limiter la marge de négociation à l'embauche ou encore exposer l'entreprise à des comparaisons peu flatteuses face à la concurrence.
Et est-ce que les entreprises finalement qui refusent encore de publier les salaires n'auraient tout simplement pas peur qu'on découvre des inégalités et qu'elles préfèrent finalement cacher?
Exactement. Certaines entreprises craignent aussi de perdre en attractivité si elles ne peuvent pas proposer les rémunérations les plus élevées. Alors qu'en réalité, la transparence renforce souvent la confiance des candidats et permet d'attirer des profils mieux informés et plus engagés. C'est pas forcément les entreprises qui paient le mieux qui attire le plus, parce que le salaire n'est pas le seul élément engageant. Et cette directive européenne, elle pousse justement à faire évoluer ses pratiques en inscrivant la transparence comme un levier de justice salariale et de performance sociale.
Alors moi, en regardant cette enquête, j'observais que les jeunes salariés étaient plus à l'aise pour parler justement salaire. Est-ce que c'est une simple tendance générationnelle ou il y a un petit peu plus derrière ça?
Les jeunes abordent en effet plus ouvertement leur salaire que les autres tranches d'âge. 83% des recruteurs constatent une parole plus libérée chez les salariés les plus jeunes et 74% considèrent d'ailleurs qu'il est plus facile d'aborder ce sujet quand on est au début de sa carrière. Donc c'est pas nouveau, ça date d'il y a très longtemps, puisque quand on est jeune, on n'a rien à cacher tellement son salaire est bas souvent. En revanche, en fin de carrière, les salaires sont un peu plus disparates parce qu'ils tiennent compte aussi d'un certain nombre de choses dans le parcours. Mais attention, parler ouvertement de son salaire peut déranger les autres. 50% des salariés interrogés considèrent que les jeunes en parlent trop, y compris chez les jeunes eux-mêmes. Ils sont 45% des moins de 35 ans à le dire.
Et en quoi la transparence salariale, elle peut devenir un levier contre les inégalités et notamment de genre ?
L'étude révèle qu'un salarié sur 6 ne sait pas du tout où elle se situe en matière de rémunération par rapport à la moyenne, à poste comparable, dans son entreprise. Les femmes et les personnes touchant les plus faibles revenus sont surreprésentées parmi ces salariés, totalement dans le flou concernant leur rémunération. Donc oui, la directive européenne, elle devrait devenir un levier contre les inégalités, car elle peut mettre fin à ces estimations au doigt mouillé, pour plus d'égalité entre les salariés qu'occupent des postes comparables. Donc cela redonnera un caractère objectif à la rémunération. Certaines personnes s'estimant sous-payées et réaliseront peut-être que c'est pas le cas. Et à l'inverse, certaines personnes pourraient faire l'amère découverte qu'elles gagnent moins que le salaire médian pour le poste qu'elles occupent.
Bah évidemment. Tension entre collègues, perte de confiance, envie aussi de démissionner. On parle beaucoup aussi des effets indésirables de la transparence. Est-ce que ces risques, ils sont réels d'après toi ?
Gardons en tête que parler de sa rémunération, c'est prendre le risque de conséquences négatives potentielles. Faut pas se leurrer. La crainte la plus répandue pour près de 60% des salariés interrogés étant de découvrir qu'ils sont moins payés que les autres, que leurs collègues sur des postes équivalents. Le rapport à la transparence salariale est donc complexe. Les salariés la souhaitent en grande partie pour être un peu plus sûrs et pour ne pas être ou pas se sentir lésés vis-à-vis de leurs collègues, tout en craignant les conséquences de telles révélations sur la cohésion des équipes. Donc les risques y sont bien réels. 54% des salariés ont déjà eu envie de démissionner parce que par rapport à leurs collègues occupant un poste similaire, à expérience et compétences égales, ils avaient un salaire plus faible. Ce chiffre atteint 60% chez les moins de 35 ans et une plus faible proportion, 18%, ce qui est quand même pas négligeable, sont allés au bout de cette envie et ont quitté leur entreprise pour cette raison.
Et comment en fait les entreprises elles peuvent réussir à anticiper finalement cette évolution de la transparence sans créer évidemment derrière des frustrations en interne ?
L'enjeu principal, c'est d'accompagner cette transition avec pédagogie et cohérence. Donc avant même de publier les salaires dans les offres d'emploi, les entreprises elles doivent commencer par faire un travail en interne. C'est pour ça qu'on disait au début que l'étude elle est importante et c'est important d'en parler aujourd'hui parce qu'il nous reste un peu plus d'un an. Réaliser des audits de rémunération, identifier les éventuels écarts injustifiés et donc mettre en place un plan d'action pour y remédier. Il est aussi essentiel de poser un cadre clair autour des grilles salariales et des critères d'évolution, puis de les communiquer de façon transparente aux collaborateurs. Cela va permettre non seulement de désamorcer les frustrations, mais aussi de renforcer la confiance et le sentiment d'équité. Enfin, impliquer les managers et les ressources humaines dans cette démarche est crucial, car ce sont eux qui seront en première ligne pour répondre aux questions, accompagner les équipes et incarner cette nouvelle culture de la transparence.
Et en même temps, un recruteur sur trois, c'est l'enquête qui nous le dit, dit ne jamais ou rarement mentionner la rémunération dans une offre. Alors pourquoi ce décalage avec les attentes des candidats ?
En effet, 29% des recruteurs déclarent ne pas mentionner le salaire prévu pour un poste dans l'offre d'emploi qui s'y rapporte, alors que 89% des recruteurs trouvent que la transparence salariale, dès le début du process de recrutement, est un atout. Donc une part significative des recruteurs ne s'applique donc pas à cette vision dans la pratique. Les raisons principalement invoquées par les recruteurs qui ne divulguent pas ces informations, c'est 1. À 40%, la volonté de garder une marge de manœuvre selon le profil et l'expérience des candidats. Donc la fameuse négo un peu au doigt mouillé.
Ouais.
En deuxième position, avec 24%, le fait que cela empêcherait la négociation salariale qui fait pleinement partie du jeu du recrutement. Ensuite, on a dans les mêmes proportions le fait que les salaires proposés par leur entreprise ne sont pas suffisamment compétitifs d'après eux, mais sans avoir d'éléments de comparaison factuels. Et enfin, à 20%, la peur de dissuader les candidats de profil qui attendent une meilleure rémunération que celle qui serait publiée.
Ce qui peut se comprendre. Avec cette transparence imposée, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'avoir une génération de salariés obsédés par la comparaison du chiffre ? Et tout cela, évidemment, au détriment du sens du travail et de l'engagement.
Oui, c'est une question légitime et notre étude, elle révèle justement cette tension. Les salariés sont partagés entre le besoin de transparence pour plus d'équité et de clarté et la crainte que cela ne fragilise les dynamiques d'équipe. 31% des salariés interrogés disent d'ailleurs redouter la réaction de leurs collègues lorsque les salaires médians dans leur entreprise seront rendus publics. Mais ce risque, il peut être largement atténué si la transparence s'accompagne d'un vrai travail de fond sur la communication interne, la pédagogie autour des grilles salariales et les critères de rémunération. Il ne s'agit pas du tout de ramener aux chiffres, mais de replacer la rémunération dans un cadre cohérent avec les compétences, les responsabilités et les parcours professionnels. Donc la transparence, bien menée, elle ne tue pas le sens au travail, elle peut au contraire renforcer l'engagement en instaurant un climat de confiance et en valorisant les efforts de manière plus juste et lisible. C'est en fuyant le sujet que les frustrations s'installent, pas en l'abordant de manière structurée et collective.
Alors tout à l'heure, tu parlais de négociation au doigt mouillé. La directive, elle va aussi interdire de demander le salaire actuel du candidat. On se dit que c'est peut-être justement la fin des fameuses négos à l'ancienne.
Ah, clairement, c'est un vrai tournant. En interdisant aux recruteurs de s'appuyer sur le salaire actuel d'un candidat, la directive vise à casser un mécanisme qui entretient depuis des années, souvent inconsciemment, mais quand même, les inégalités salariales, notamment entre les femmes et les hommes. Donc on reste enfermé dans ce qu'on a déjà gagné, dans ce qu'on a déjà fait avant. Cela oblige les entreprises à repenser leurs pratiques de négociation en s'appuyant davantage sur des grilles objectives, sur des critères transparents, expérience, compétences, responsabilités, et une rémunération définie en amont pour chaque poste. C'est sans doute la fin des petits arrangements et ou des stratégies où celui qui négocie le mieux obtient le plus.
Les packages de rémunération globale, incluant primes et avantages, est-ce que tout ça va devenir un standard finalement de communication chez les ressources humaines ?
Oui, des signes tendent à l'indiquer. En effet, si le salaire reste un point crucial du processus de recrutement, les autres types d'avantages, primes, assurance santé, congés supplémentaires, chèques vacances, etc., sont pas négligeables. 82% des recruteurs les considèrent comme un atout pour recruter. 80% d'entre eux trouvent également que la transparence sur la politique de télétravail dans leur entreprise dès le début du process de recrutement aide à recruter. D'ailleurs, le télétravail a tendance à être perçu de plus en plus comme un acquis social plutôt qu'un plus. 40% des salariés et 30% des recruteurs considèrent désormais que les entreprises se doivent de proposer le télétravail à leurs employés lorsque le télétravail est possible, bien sûr.
Alors Eric, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus exemplaires que d'autres ou est-ce qu'il y en a qui tanguent ?
Historiquement, tous les secteurs où on a du mal à recruter, ils sont plus transparents et tous les secteurs où les salaires sont plus faibles. Donc la transparence salariale, elle varie considérablement quand même selon les catégories socio-professionnelles et les pays européens. Donc fin 2024, on a fait une étude sur la transparence des salaires en Europe. Elle est plus élevée dans le domaine du nettoyage et de l'assainissement. En tête, on a l'Italie à 84%, la France est à 92% comme le Royaume-Uni. Parmi les autres secteurs qui représentent également une part élevée d'offres qui mentionnent le salaire figurent l'éducation, la formation, la restauration, donc sur des chiffres à plus de 70-80%. À l'inverse, les domaines du génie industriel, du développement informatique, de l'administration des systèmes réseaux, la gestion de projets, des services juridiques affichent des taux de transparence particulièrement bas, inférieurs à un tiers. Et ces observations mettent en évidence un phénomène plus large, c'est que, en gros, les employeurs sont moins enclins à divulguer les salaires lorsqu'ils sont plus élevés, et cette tendance apparaît dans tous les pays considérés ici dans l'Union européenne, à l'exception des Pays-Bas.
Et puisque tu parles des employeurs, quels bénéfices concrets ils peuvent tirer finalement de cette quête de transparence au-delà de la conformité légale de la directive ?
Au-delà de l'obligation réglementaire, qui, je le rappelle, est une obligation qui va arriver. La transparence salariale peut devenir un véritable levier d'attractivité, de fidélisation et d'engagement dans un marché de l'emploi tendu. Donc, afficher clairement ses pratiques de rémunération permet de se démarquer, de gagner la confiance des candidats, d'attirer les bons profils, de les garder également, d'être en phase avec la culture d'entreprise. C'est aussi un outil de gestion RH efficace. En clarifiant les critères de rémunération, on limite les tensions internes, on favorise les discussions plus sereines autour de l'évolution de carrière, on renforce le sentiment d'équité au sein de l'entreprise. Et enfin, les entreprises qui s'engagent dans cette démarche gagnent en image de marque, en crédibilité, en cohérence avec les attentes sociétales actuelles, notamment en matière d'égalité professionnelle et de justice sociale. C'est d'autant plus un enjeu de performance que de réputation.
Bon, et si tu devais, là, entre nous, retenir finalement une seule chose, une seule leçon peut-être de cette étude, ce serait laquelle ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être transparent ?
Eh ben voilà, tout simplement. Voilà, le message, il est lancé. Et la question, surtout, elle est posée.
Exactement.
Merci à toi, Eric.
Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous.
Eric Gras, d'Indeed, spécialiste du marché de l'emploi. Merci d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir éclairé sur ce sujet essentiel pour l'avenir du travail. C'est Job News by Indeed. C'est la saison 5. Vous le savez, c'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Et si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez surtout pas à le partager ou à laisser tirer une petite note positive sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour un nouvel épisode de Job News. Ciao, ciao, salut.
Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.